franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, comment le renouvellement des cellules de notre cerveau peut-il prévenir les troubles de la mémoire, avec Francis Eustache.
La prévention, c'est la fabrication de nouvelles cellules nerveuses.
Ouais.
On sait maintenant que notre cerveau, le cerveau de plusieurs espèces animales, et d'abord les oiseaux, ça a été montré chez les oiseaux, puis ensuite les mammifères, y compris l'homme, est doué de ce qu'on appelle une neurogénèse. C'est-à-dire que dans l'espèce humaine, c'est à peu près 1000 nouveaux neurones par jour. Et ces nouveaux neurones donc, vont pouvoir mémoriser des informations nouvelles, et une des bases de la mémorisation des souvenirs, c'est-à-dire ce qui est vraiment nouveau, ça va être supporté par ces nouvelles cellules, et ce que va supporter ces nouvelles cellules va être différent de ce qui est supporté au contraire par les anciennes cellules. Ouais.
Mais ça, c'est vraiment là encore une nouveauté, c'est-à-dire que pendant longtemps, et même on l'a dit régulièrement dans les médias et dans les différents ouvrages de vulgarisation, on a un stock de neurones à la naissance, et puis à partir de 20 ans, on ne fait qu'en perdre, un peu une sorte de lente dégénérescence dont nous serions victimes, et vous nous dites... Pas du tout. Maintenant, les chercheurs en ont acquis la certitude. Tout au long de la vie, des neurones se forment dans notre cerveau.
Alors ça, on a montré ça. D'abord, ce sont des neurobiologistes qui ont montré ça chez les oiseaux, chez les oiseaux chanteurs qui chantent tous les printemps et donc qui essaient d'améliorer leur chant tous les printemps. Donc ils se souviennent des anciens chants et ils essaient de faire mieux. Et puis d'autres petits oiseaux, les mésanges charbonnières, qui cachent la nourriture, donc cette fois-ci à l'automne, et qui ont besoin évidemment de se souvenir des différentes cachettes. Tout est parti de ces résultats-là. Ensuite, on a montré que différentes régions du cerveau chez l'homme sont douées de neurogénèse, dont une partie de l'hippocampe. Alors l'hippocampe, c'est une région qui est très très importante pour ce qu'on appelle la mémoire épisodique, la mémoire des souvenirs. Donc c'est une partie dans cette partie de l'hippocampe que les nouvelles cellules sont les plus nombreuses. Alors ça a d'abord été un constat. On se demandait un petit peu à quoi servaient ces cellules. On avait bien sûr une idée, on faisait des hypothèses. Et maintenant, on comprend beaucoup mieux la fonctionnalité de ces neurones. Et puis surtout, on comprend mieux également comment on peut faire en sorte que ces cellules perdurent.
Ouais.
Parce que ce sont des nouvelles cellules qui sont extrêmement fragiles. Donc, une des questions qui se pose, c'est comment on va faire en sorte que ces cellules perdurent et deviennent fonctionnelles.
Mardi, comment trouver de l'eau sur Mars ? Les trucs de François Forget.
Ce qui a été suggéré au mois de septembre, c'est que à ces endroits-là, on voit effectivement la signature spectrale, encore une fois, à distance, de sels minéraux, de sels qui sont capables de justement changer la nature de l'eau, de faire ce qu'on appelle des saumures, vous voyez ? Et alors, en réalité, l'enquête est encore à mener parce qu'on n'a pas vu d'eau et... On n'est même pas certain, c'est de la science, donc l'enquête, on n'est pas encore sûr même qu'il y a vraiment ces selles-là. Certains collègues spécialistes me disent « Oh non, les specs sont pas très beaux, on va vérifier ». Donc
alors,
l'enquête est en cours.
Oui, c'est intéressant de savoir du point de vue scientifique, est-ce qu'il y a de l'eau sur cette planète, est-ce qu'il y en a eu par le passé. C'est aussi intéressant, toujours dans cette optique, un jour d'aller y mettre le pied, parce que si des astronautes, comme dans le film de Ridley Scott, installent une base sur cette planète, évidemment, si il y a de l'eau disponible, ça facilite les choses.
Oui, mais ils n'auront pas cherché de l'eau à ces endroits-là, parce que là, en fait, il y en a très peu.
Ouais.
Encore une fois, c'est du sable mouillé. S'il y a besoin d'eau sur Mars pour des astronautes, il y a plusieurs solutions. Une très simple, si on se met pas sous l'équateur, mais à partir des tropiques, vous voyez, vers 25 degrés latitude, si on va, on a démontré ça, avec un collègue, Mathieu Vincendo, alias, à l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay, si vous vous mettez sur des pentes orientées vers les pôles, équivalent des faces nord en France, où il fait froid, si on gratte un peu le sable, dessous, il y a de la glace d'eau. La glace d'eau en permanence, et ça sera facile d'accès. Elle sera très dure parce qu'elle sera froide, ouais. Et il faudra un bon pic à glace. Sinon, on peut extraire l'eau de l'atmosphère. Il y a un petit peu de vapeur d'eau, pas beaucoup, mais avec des extracteurs, vous voyez, on pourrait imaginer en extraire. Mmh. Ou alors, vous prenez, dans certaines régions, il y a des massifs entiers constitués de roches qu'on appelle hydratées. Donc c'est de la roche, mais là-dedans, il y a la molécule de l'eau. Si vous prenez et puis vous la chauffez un coup, elle libère plein de vapeur d'eau, et vous pouvez la récupérer pour boire. Et...
Mercredi, comment reconnaît-on un enfant hypersensible avec Saverio Tomasella et Emmanuel Rigon?
Chaque enfant va vivre sa sensibilité de façon très différente. Et quand l'enfant est particulièrement sensible, ça va se manifester de façon très différente. Ça peut être un enfant qui va être très timide, très réservé, ou au contraire très expressif et qui va théâtraliser sa façon d'être. Ça peut être un enfant qui va avoir beaucoup d'émotions, ou au contraire un enfant qui n'arrivera pas à exprimer ses émotions. Il y a énormément de façons différentes de vivre cette grande sensibilité.
Ce qui paraît du coup parfois un peu contradictoire et contre-intuitif, c'est-à-dire que devant un enfant qui paraît presque insensible, hein, presque ne réagissant pas au monde qui l'entoure, ça peut être une preuve, une manifestation de son hypersensibilité.
Oui, parce que l'enfant qui est très sensible, à partir d'un certain moment, si par exemple il n'a pas été accueilli dans sa façon d'exprimer ses malaises, ses troubles, va se dire « je ne vais plus pouvoir exprimer ». Enfin, il ne se le dit pas consciemment, hein, oui. Mais il va choisir de ne plus exprimer cette grande sensibilité. Donc, il y a aussi des enfants qui se referment sur eux-mêmes.
Oui. Emmanuel Rigon, vous signalez aussi des cas comme ça dans votre livre. Je ne sais pas si c'est des jeunes patients que vous avez eus en consultation directement ou si ce sont des cas qui sont connus dans le monde des psys. Mais vous parlez d'enfants comme ça, très renfermés sur eux-mêmes, qui en fait ont eu une phase hypersensible, émotive, et puis qui se sont un peu cadenassés.
Oui, alors ce que j'explique dans mon livre, c'est je suis partie sur l'idée qu'il y avait des dominantes à l'hypersensibilité, donc qui peuvent se combiner ou qui peuvent se succéder. C'est-à-dire que effectivement, un enfant va exprimer son hypersensibilité selon un certain canal, par exemple de la très grande émotivité. Mais si cette expression est reçue de manière très défavorable dans l'entourage ou s'il sent que ça crée beaucoup de problèmes, il peut à ce moment-là choisir toujours. Pareil, pas forcément et bien sûr consciemment, il peut choisir une autre manière de l'extérioriser dans des familles où on parle pas beaucoup, où c'est assez mal vu de faire des grandes crises. On peut avoir deux sortes de réactions, soit l'enfant qui s'en fiche et qui choisit au contraire de faire des grandes crises très théâtrales, ou au contraire un enfant qui va un petit peu suivre le mouvement commun et qui va plutôt être dans le retrait, ce qui ne veut pas dire que son hypersensibilité a disparu.
Jeudi, et si les champignons connectaient les plantes entre elles dans un gigantesque réseau, avec les biologistes Fabienne Malagnac et Francis Martin.
Francis disait que le succès évolutif des forêts sur Terre, c'est probablement cette symbiose, donc cette association à bénéfice mutuel entre les plantes et les champignons, parce qu'effectivement, les ressources sont amenées à l'un et à l'autre. Et les champignons, donc, par association avec les racines des arbres, sont capables de connecter différents individus dans la forêt, peuvent éventuellement servir de pipeline, en fait, ou de paille.
Il existe... Mais c'est-à-dire qu'on s'échange des nutriments, on s'échange des informations. Qu'est-ce qu'on s'échange via le réseau des champignons?
Alors,
quand on est un arbre,
les nutriments, on en est sûr. Alors, je crois, hein, Francis, si je dis une bêtise, il faut que tu me le dises, mais je crois que en fait, il y a un système de clapet, c'est-à-dire que quand la plante donne du sucre aux champignons, il n'y a plus d'accessibilité dans l'autre sens. Simplement, on s'aperçoit que peut-être, finalement, on peut avoir un échange de ce sucre vers d'autres arbres de la forêt, et que peut-être que des arbres plus développés aident les plus jeunes, ou des arbres qui ne perdent pas leurs feuilles communiquent à d'autres, et que ça pourrait créer comme ça une dynamique de ressources à l'intérieur de la forêt.
Il faut dire que c'est un sujet qui est polémique. C'est-à-dire que l'existence de ces réseaux, elle est certaine. C'est vrai que toutes les plantes sont les plantes d'un écosystème, que ce soit une prairie, que ce soit une forêt, sont connectées par ce réseau mycélien de plusieurs kilomètres qui va établir des connexions entre les différentes plantes, entre les différents arbres.
Mais c'est incroyable de se dire
déjà ça. Déjà ça, c'est quand même incroyable, effectivement. Et ça, mais là, on est quasiment certain de ça. Maintenant, quelle est l'importance pour la nutrition des forêts de ce réseau? Quel est le pourcentage de nutriments et de carbone, de sucre qui passe par ce réseau? Certains disent 1%. Donc dans ce cas-là, c'est négligeable. D'autres disent 10 à 20%, auquel cas, là, ça a un vrai impact écologique. Ouais. Et récemment, certains ont supposé qu'il y avait des échanges de signaux, des signaux d'alerte quand une plante est attaquée. Éventuellement, certaines molécules signalent pourraient prévenir les voisines, les plantes voisines, par le biais de ce réseau mycélien. Donc là, c'est effectivement très séduisant. Ouais. On se rapproche de Gaïa, la planète est interconnectée, c'est Avatar. Là, j'avoue que moi, je suis encore, en tant que scientifique, j'observe, on collecte les informations. C'est des expérimentations extrêmement difficiles à réaliser. Il faut bien voir que démontrer des échanges de carbone dans une forêt adulte avec des arbres centenaires de plusieurs centaines de mètres de haut, on peut difficilement les marquer par un isotope et suivre cet isotope à travers la forêt. Ça reste quand même très compliqué.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.